Chaque jour, à la même heure, nous vous apportons les informations que votre censure vous cache.
Les patrons de presse de l'entre-deux-guerres.
Le journalisme est un état dont est possédé 24 heures sur 24 celui qui se sent délégué par des milliers de lecteurs comme un vigile partout dans le monde où il se passe quelque chose. Pour leur annoncer l'événement, ensuite pour être là et le leur faire vivre avec le plus de rapidité, d'exactitude et de talent.
Ça, c'est la construction idéale du métier. On entendait un maréchal de Jean Prouveau, le fondateur de Paris Soir. Ce journaliste s'appelle Hervé Mille. Les années 20-30, c'est l'époque, en effet, de la professionnalisation. On définit les codes de bonne conduite qu'il faut respecter. Le syndicat national des journalistes est créé, et avec lui, la carte de presse. Mais si les professionnels de la profession gardent parfois un bon souvenir de cette époque, un autre plus cuisant demeure dans l'opinion, celui d'une corruption assez générale. Hubert Beuve-Méry, le futur fondateur du Monde, se souvient par exemple d'un groupe de correspondants dans le bureau du roi Carol de Roumanie. Celui-ci offre à chacun une montre pour son épouse et un journaliste se détache. « Merci, sire, ça ce sera pour ma régulière, mais j'en voudrais bien une autre pour ma maîtresse. » Il est vrai que les patrons de presse eux-mêmes n'étaient aucunement exemplaires. Ceux des grands quotidiens nationaux des années 20 étaient même souvent des condottières, sans foi ni loi. Et soudain, ils ont vu leur tirage global ne plus augmenter, leur marge bénéficiaire diminuer, la concurrence de la radio survenir. Cette crise allait-elle détourner les patrons d'autres activités aux reins plus solides d'investir dans la presse? Eh bien non. La même question s'est posée donc dans les années 30, qui nous agite aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui attire les capitalistes dans les médias?
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Jean-Noël Jeannet. Bonjour Jean-Noël Jeannet.
Bonjour Jean Lebrun.
Retour des rendez-vous de l'histoire de Blois, auquel vous présidiez, comme chaque année. Retour des studios de France Culture, où vous enregistrez votre émission du samedi, Concordance des temps. Je suis reconnaissant, vous avez été président de Radio France, et vous savez qu'il faut faire des économies, de ne pas nous fournir de fiches de taxi remboursées.
En effet, je suis descendu du studio 153 pour vous retrouver.
Vous êtes, entre autres, un historien des médias. Le Seuil a édité de nouveau un ensemble de textes de vous qui s'intitule « L'histoire, la liberté, l'action ». Le même éditeur, Le Seuil, publie la 55e édition, c'est ça, de « Une histoire des médias ».
53e.
53e édition.
C'est la 5e.
On fait comme si c'était encore l'âge d'or du papier. Je vous propose qu'on commence un petit peu avant la guerre de 1914. C'était l'apogée hein, pour la presse papier en France. Quel était le tirage total des quotidiens nationaux?
5 millions à peu près. On est en effet dans l'âge d'or, puisque on est au moment où le public s'est grandement élargi, sous l'effet notamment du fait que l'école a permis à la majorité des Français de savoir lire et écrire. Et on n'a pas encore la concurrence de la radio. Donc ces principaux journaux qui sont Le Journal, Le Jour, l'Écho de Paris ou
Le Petit Parisien.
Le Petit Parisien qui est le tirage maximal, effectivement. Eh bien, ils prospèrent, ils rapportent beaucoup d'argent à leurs propriétaires et ils sont par conséquent les témoins, quand on consulte encore leur collection, vraiment de cet âge d'or.
Et le journal à 5 sous qui était né sous le Second Empire s'était étendu, c'est-à-dire qu'à la différence de ce qu'on voit aujourd'hui, le prix des journaux avait plutôt tendance à baisser. Et les journaux à 5 sous, très populaires, se politisaient, devenaient des journaux d'information générale.
On sait bien qu'aujourd'hui, un des problèmes de la presse, c'est le coût beaucoup trop élevé du numéro, y compris par rapport aux pays voisins.
Au Théâtre de l'Œuvre, chez Lugnier-Pau, on a créé en France, au tournant du 19e et du 20e siècle, la pièce d'Ibsen qui s'appelle « Un ennemi du peuple ». Peut-être tout à l'heure parlera-t-on de « L'ami du peuple ». C'est le titre d'un journal. « Un ennemi du peuple », c'est dans une ville thermale dont la prospérité dépend de la réputation de ses eaux. Un médecin qui surgit, qui dispose d'une expertise prouvant que les sources sont dangereuses, il entend faire publier un article pour décrire la réalité et à cet effet va rendre visite au directeur et à l'imprimeur de la feuille locale.
Vous avez présenté votre affaire sous un faux jour, docteur.
Imprimer seulement mon article, je saurais bien le défendre.
Mais je ne l'imprime pas. Je ne peux pas. Je ne veux pas. Je n'ose pas l'imprimer.
Vous n'osez pas?
Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous êtes bien directeur, n'est-ce pas? Et ce sont bien les directeurs qui sont maîtres de la presse, je pense.
Non. Ce sont les abonnés, monsieur le docteur, les lecteurs.
Heureusement.
C'est l'opinion générale. Le public éclairé, les propriétaires et tous les autres, ce sont eux qui dirigent la presse. Ce serait la ruine de la bourgeoisie si votre article était imprimé.
Monsieur Hofstadt, il est tout à fait impossible de voir mon article publié dans le Messager. C'est tout à fait impossible. On se moque ici de moi et de la vérité. Mais ça ne sera pas aussi facile que vous croyez. Monsieur Saxen, prenez immédiatement mon manuscrit. Imprimez-le sur feuille volante à mes frais. J'en suis l'éditeur. Il m'en faut 300 ou 400 exemplaires. Non, 500 ou 600.
Quand vous m'offririez de l'or pour cela, monsieur le docteur, je ne prêterai pas mon imprimerie. Je n'ose pas, à cause de l'opinion publique.
Alors rendez-le-moi. Il circulera quand même. J'en donnerai lecture dans une grande réunion populaire. Mais mes concitoyens entendront la voix de la vérité. Et si je ne peux pas louer de local, je descendrai dans la rue. Tu ne feras pas cette folie. Si, j'en suis là.
Une folie, parce que Mal va lui en prendre. C'est une représentation du théâtre populaire des Flandres. Cette pièce qui a été créée en Scandinavie en 1883 témoigne que même à l'apogée que vous décriviez, Jean-Noël Jeannet, il y avait une méfiance.
Oui, d'ailleurs, on a un débat fort intéressant de Clémenceau et de Jaurès. Ils étaient tous les deux à la première de la pièce. Ils ont débattu dans le foyer et ensuite par journaux interposés. Tous les deux, évidemment, blâment le manque de courage du rédacteur en chef qui n'a pas osé publier l'article critiquant les riches capitalistes de la ville d'Eau. C'est une pièce écologico-politique. Clémenceau dit c'est affreux parce que ce rédacteur, c'est un individu, il aurait dû avoir le courage et le monde ne progresse jamais que par le courage individuel. Tandis que Jean Jaurès, pour sa part, explique bon, il faut lui pardonner puisque tout le système capitaliste l'empêche de le faire. Et qu'on améliorera tout ça seulement le jour où on l'aura renversé. Je résume, mais cette opposition est intéressante.
La méfiance va grandir évidemment pendant la Grande Guerre, où il y a une demande d'information et d'information exacte et de plus en plus forte. Cette demande, à mesure que la guerre avance, et les journaux sont coincés par la censure, ils ont des difficultés économiques aussi, qui vont d'une certaine manière perdurer dans les années 1920, parce que le tirage global ne va plus beaucoup augmenter. Les journalistes vont réclamer, ainsi que les autres employés de presse, des salaires plus importants. La publicité est contrôlée par Havas, contrôlée de très près. Les marges bénéficiaires vont avoir tendance, dans les années 20, plutôt à décroître.
Oui, parce que de fait, le marché est à peu près saturé. Et puis à la fin, arrivera la concurrence de la radiodiffusion dans les années 1930-1935, qui correspond sûrement à une certaine baisse de la vente des journaux, puisqu'on peut être informé d'autre part.
Alors, on dit que les quotidiens régionaux, dans les années d'après la guerre de 14, ont plutôt progressé. On prend l'exemple de l'Ouest Éclair, journal démocrate-chrétien qui va devenir de moins en moins démocrate-chrétien, de plus en plus lisse, et comme ça se multiplier dans toute la Bretagne et au-delà. Qu'est-ce qu'il en est d'ailleurs des journaux d'opinion ?
Il y a toujours eu, sous la Troisième République, depuis la grande loi libérale de 1881, concomitance entre les très grands journaux populaires que nous évoquions tout à l'heure, qui vendent plus d'un million d'exemplaires chacun, et d'autre part, ces organes politiques qui viennent servir les démonstrations, la carrière d'un certain nombre de personnages majeurs du parlementarisme et du gouvernement. Et ce sont des journaux qui vivent plus difficilement, bien sûr, et qui ne rapportent pas d'argent. D'un côté, de très bonnes affaires, de l'autre, l'outil nécessaire à la diffusion et de la pensée et à l'influence de ces personnages.
Citons l'Action française, l'Humanité, la Croix, il n'y a pas à l'époque d'aide à la presse de la part de l'État pour les journaux d'opinion.
Ou la justice de Clémenceau, qui ne rapportait pas d'argent, Dieu sait, puisqu'il a été assez imprudent pour faire appel à capitaliste qui s'appelait Cornelius Hertz, notamment rien à la probité de Clémenceau, mais du même coup, il a été obligé de rembourser ensuite et il a continué de le faire jusque dans les années 20. La justice lui a coûté très cher.
Ça, ce sont les journaux d'opinion. Et puis, il y a les journaux, comment dire, bourgeois, de référence. Alors, on pense à des publications qui remontent à la plus haute antiquité, le journal des débats, Le Temps, avec son inscription du titre en lettres gothiques, rue des Italiens.
D'où celle du Monde aujourd'hui, d'ailleurs.
Oui, parce que le Monde est le successeur du Temps à certains égards. Eh bien, il se dit, Jean-Noël Jeannet, que ce sont des organes officieux, genre comité des forges. Vous savez, l'ancêtre de l'UIMM de maintenant, beaucoup plus puissante, animée à l'époque par François de Vindel, élu et patron de Lorraine, qui manipulerait ces journaux de référence. Alors voilà, questionné sur ce sujet beaucoup plus tard dans les années 60, le fils de François de Vindel, Henri de Vindel, l'interrogateur c'est Joseph Pasteur.
Pour respecter votre légende, je vous rappellerai que le comité des forges était pour beaucoup un organisme qui manipulait des fonds considérables et ces fonds étant destinés pour l'essentiel à acheter des hommes politiques et à acheter des journaux de façon à peser sur la politique du moment.
Il me semble qu'il faudrait tout de même définir de façon peut-être plus précise ce qu'était le comité des forges. C'était en fait une chambre syndicale patronale. Vous avez évoqué les fonds considérables, caractère occulte. Caractère occulte me paraît, franchement, relever un peu l'imagerie d'Épinal. Quant au côté de ces fonds qui servaient à acheter des ministres ou des fonctionnaires, je ne peux faire qu'une réponse, c'est que, et rappeler que mon père a été président du comité des forges entre les deux guerres, depuis la fin de la première guerre jusqu'en 40, date à laquelle le comité des forges a été supprimé. Et j'ai beaucoup trop connu et le patriotisme et le souci d'intérêt général et la parfaite intégrité de mon père pour penser qu'il ait pu, à un moment quelconque, se prêter à des manœuvres de cette nature.
Et tout de même, Jean-Noël Jeannet, je sais que vous avez répondu à cette question il y a 40 ans dans votre thèse de doctorat, mais le
merci temps de me rajeunir, été, merci de me rajeunir.
Le temps avait été racheté secrètement par les maîtres de forge.
Il faut distinguer en fait deux types d'influence, du gros argent, comme on disait à l'époque, de l'argent des entrepreneurs sur la presse. Il y avait en effet, d'abord, l'achat ou d'un certain nombre de journaux. Par exemple, ces deux journaux dont on disait que c'était la bourgeoisie faite journal, Le Temps et Les Débats d'un côté. Les débats, par exemple, sont possédés pour l'essentiel par François de Vindel d'un côté et par le sucrier Le Baudy de l'autre. Ce sont deux exemples qui frappent. Dans le cas du Temps, la légende a un peu déformé la réalité. En fait, les gens des Houillères, les gens des Forges et tel ou tel autre capitaliste se sont mis d'accord pour acheter Le Temps quand il s'est trouvé en vente pour éviter qu'il tombe dans des mains étrangères. Ils ont une influence majeure. Mais je crois que la préoccupation des démocrates à l'époque et aujourd'hui devait se porter plutôt sur un autre type d'influence, c'est-à-dire l'achat secret par de l'argent dissimulé, des plumes. Par exemple, au débat, François de Vindel se plaint constamment du fait que le bulletin financier échappe à son influence. Pourquoi ? Parce qu'il est acheté secrètement par une banque qui vient donner une mensualité, d'ailleurs très honnêtement partagée entre le directeur Étienne de Nalèche et celui qui est responsable de cette partie du journal, pour que des informations qui sont favorables aux affaires de la dite banque puissent être passées. Et donc, ça, du point de vue de la moralité et de la capacité d'informer de façon probe les journaux, les lecteurs, cela est plus important et plus préoccupant.
Un instant de publicité, si vous le permettez, monsieur l'ancien président de Radio France.
C'est vous qui prenez le risque.
La ministre de la Culture vient d'ouvrir une consultation publique afin de recueillir les observations des acteurs concernés sur la modification du régime publicitaire et de parrainage applicable à Radio France afin de multiplier le nombre des annonceurs et de dépasser le temps limite de 30 minutes en moyenne par jour. Alors nous apportons, si vous le voulez bien, cette contribution à cette consultation publique. Voilà une publicité intéressante.
Douleurs musculaires, coups, ecchymose, Saint-Olgène. Ça fait du bien là où ça fait mal.
Elle se tait, la douleur, elle se tait.
Saint-Ol est un médicament.
Quand il en reste, du Saint-Ol.
Voilà. Saint-Ol, ça fait du bien là où ça fait mal. Saint-Ol est un médicament pas en dessous de 7 ans.
Je suis protégé hein, parce que maintenant le Saint-Ol, il se trouve que depuis un an, il n'est plus en vente sous la forme bain de bouche et application locale.
Je me préoccupais de la suite de votre carrière à Radio France, je suis rassuré.
Le Saint-Ol, c'était le produit vedette qu'il fallait sans cesse mettre en avant dans le journal d'un des condottières des années 20 qui s'appelait Buno Varilla.
Oui, il était obsédé par le Saint-Ol.
Parce qu'il était actionnaire, et même propriétaire du Saint-Ol.
Oui, donc il se mêlait très directement des préoccupations propres aux capitalistes. Et
il fallait que les journalistes citent le Saint-Ol sans arrêt. C'est oui. Pour ça que j'ai suivi l'exemple.
Oui, eh bien voilà un cas effectivement de, où se mêlent de façon, comment dire, préoccupante les soucis de, les préoccupations, où se mêlent les préoccupations capitalistes du propriétaire et le contenu des journaux. C'était plutôt rare, car là, en fait, les motivations des capitalistes à s'emparer de journaux ou à les développer sont assez variées. Il y a naturellement l'intérêt éventuel de, du type de celui que vous dites, mais le plus souvent, en tout cas très souvent, il y a simplement le plaisir de se dire qu'on a son journal, à travers celui-ci, de pouvoir fréquenter un certain nombre de milieux qui ne sont pas ceux austères, forcément, de la fabrication de l'acier ou de la fabrication des textiles. Vous savez, quand Bouygues a acheté TF1, c'est un motif dont il n'a pas fait mystère. Il était tout content de se trouver à côté de Jeanne Moreau, même si au premier regard, il ne l'a pas reconnu.
Mais je ne suis pas tout à fait sûr qu'il avait l'intention d'avoir une action politique déterminante sur l'opinion, comme un autre condottiere incroyable qui s'appelle François Coty, corse, élu d'Ajaccio, immense parfumeur, multimillionnaire, alors qu'il rachète tout ce qu'il peut après avoir financé tout ce qu'il avait pu à l'extrême droite.
Oui, c'est un laborantin de génie. Il avait un nez, comme on dit dans le métier, et il a fait fortune de la sorte, oui. Et puis, il a eu des opinions politiques très, très marquées. Il a eu beaucoup d'admiration pour Mussolini, en particulier pour le fascisme. Il a commencé par acheter le Figaro, et puis, quand le Figaro lui a échappé, il a fondé l'Ami du Peuple.
On y vient, l'Ami
oui,
du Peuple.
L'Ami du Peuple, qui a été en fait un organe de défense extrême d'une droite
1933, musclée. On veut nommer Einstein au Collège de France, mais sait-on que c'est un juif et un bolchevique militant. Mais 33, c'est déjà l'année de la ruine pour Coty, parce qu'il va perdre beaucoup d'argent de tout
ça. Oui, il avait fait l'erreur de se marier sous le régime de la communauté de biens. Et quand il a été en difficulté à cause de la crise, sa femme lui a demandé la moitié de ses biens et du même coup, il a été ruiné. Et c'est elle désormais qui, étant riche, est devenue un des paladins du capitalisme de presse. Elle a épousé Cotnareanu, qui était consul de Roumanie en France. Et du coup, ils ont été extraordinairement courtisés par tous ceux qui voulaient que l'argent aille vers les journaux. Ils sont ensuite achetés le Figaro, par exemple.
Autre condottiere, Léon Belby, le patron de l'Intransigeant, qui patronne aussi beaucoup de manifestations. Coty patronnait et l'expédition Coste-Bellonte en 1930, très régulièrement. Belby, lui, est l'animateur du bal des petits lits blancs. C'est ce qu'on peut appeler l'humanitaire profitable.
Mais elles sont très belles, ces voitures. Les poupées aussi. Les lots. Expliquez au public qu'il y a des centaines de gosses de Paris qui sont dans les hôpitaux. Pour eux, il n'y a pas de crise. Ils ne peuvent pas attendre. Si on ne les emmène pas cette année, l'an prochain, nous ne les retrouverons plus. Dites bien au public du bal des petits lits blancs qu'il s'agit là non seulement d'une bonne action, mais d'une belle affaire.
Une humanitaire rentable. Alors le bal des petits lits blancs, c'est avec 20 ou 30 vedettes qui viennent aider les enfants tuberculeux à sortir de leur lit et ne peut manquer à cette occasion Mistinguette. Alors Ilinka Negulesco et Martin Penet me prient de préciser le sens de la scène que vous allez entendre, mais je pense que c'est très clair. Jean-Noël Jeannet, on est sur le pont d'argent, les spectateurs, les invités sont en dessous et Mistinguette lève la jambe, se demande si elle l'a levé assez haut pour Léon Belby.
On dit que j'ai de grandes canottes. C'est vrai qu'elles sont grandes? Non, elles sont pas grandes. Elles sont mignonnes. Que je n'ai que trois notes. Ça, c'est vrai. On dit que j'aime jouer les arpètes, les marchandes de violettes. C'est vrai. Mais ne voulant pas chipper aux grandes coquettes, leurs dames aux camélias, moi je vends mes bégonias. On dit que j'ai de belles gambettes. Ça c'est haut. Mais je serais pas Mistinguette
si j'étais pas comme ça. Et si l'on mettait à la tête des finances Mistinguettes, on n'en serait pas là.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Et si on mettait à la tête de la presse des capitalistes, Jean-Noël Jeannet, pour refaire écho à la question que posait tout à l'heure Mistinguette, si on mettait à la tête des finances Mistinguette.
C'est déjà le Téléthon.
C'est déjà le Téléthon, absolument. Mais ça, c'est rentable. Belby, il va avoir des difficultés avec les années. Et puis aussi Bruno Varilla, qui vieillit et qui est assisté par son fils, parce que les tirages dans les années 30, on passe maintenant aux années 30, restent franchement stables. Et il y a un inventeur qui surgit, qui vient de l'industrie.
Je vous vois venir, il doit s'agir de Jean Prouveau.
Je le crains.
Alors, ce ne sont plus des entrepreneurs qui ont fait fortune dans la presse, comme ce fut le cas d'un certain nombre de gens que nous avons cités, Bruno Varilla, Dupuis et d'autres. Ce sont des capitalistes qui ont de la fortune ailleurs et qui ont le goût de venir l'investir, tout en étant des entrepreneurs très efficaces, dans le domaine des journaux. C'est le cas de Jean Prouveau, puisqu'il y a Paris Soir d'un côté et Match, ancêtre de Paris Match, de l'autre.
Il s'intéresse beaucoup à la photo, d'ailleurs, Prouveau, avec ses équipes.
Il y avait déjà eu un journal avant 1914 qui s'appelait Excelsior, et qui s'était attaché à donner des photographies grâce aux progrès technologiques en première page.
Vous avez d'ailleurs publié une anthologie des photos d'Excelsior pendant la Grande Guerre. Mais enfin, Excelsior, c'était quoi? 100 000 exemplaires, 130 000 exemplaires, 150 000?
Une centaine de milliers, 80 000 ou 100 000, effectivement. Là, au contraire, on atteint des chiffres considérables, et Paris Soir, avec un certain nombre de recettes intéressantes, est un grand succès. Je crois vraiment qu'il faut distinguer les entrepreneurs de presse qui ont le goût, au fond, d'acheter des journaux pour des satisfactions souvent de surface ou par l'idée généralement fausse qu'ils vont par là influencer la vie politique, et ceux qui vraiment ont le goût de tout ça, ceux qui s'en amusent, comme fera Dassault finalement après la guerre. Ça l'amusait beaucoup d'avoir Jour de France. Oui. Il changeait les définitions des mots croisés.
Mais quand M. Bolloré s'occupe de près des programmes de Canal, ça ne marche pas. Tandis que quand Prouveau est là, présent à son bureau, encore plus que Bolloré, ça marche.
Il se concentre entièrement à ses journaux. Et c'est aussi pour ça qu'il rachètera le Figaro après la guerre.
Mais
après la guerre.
Qu'est-ce qu'il a inventé d'autre que l'accélération de la production de la photographie et de sa publication?
Toute une série de rubriques propres à séduire le public. On avance vers les amours impossibles ou le crime ne paye pas. Ce sera bientôt le potin de la commère. Enfin, il y a déjà quelque chose qui va du côté du people.
Rideau, donc, sur les vieilles barbes. Ici, on entend un autre maréchal de Prouveau qu'Hervé Mille. C'est Raymond Castan qui raconte à sa façon une entrevue qui aurait eu lieu au début des années 1930.
Tous les grossiums de la presse parisienne, qui étaient les Bruno Varilla, les Belby, les Dupuis, on dit, c'est un jeune fou, c'est un aventurier, il va se casser la gueule. Enfin, voilà. Les quatre premiers journaux de Paris de l'époque tiraient 4 millions, 600 000 exemplaires à eux quatre. Ça n'existe plus. Et alors, ils ont réuni, ils disaient, il faut surtout pas faire ça. Et puis, l'autre, profitant de ce que personne ne voulait faire, ce qu'il faisait, a racheté l'Intransigeant, qui était le grand journal du soir. Il racontait, quand il était allé expliquer à Belby, c'était un personnage important à Paris, qui faisait l'intran, il lui a dit, voilà, monsieur Belby, j'ai l'intention de faire un journal du soir. Alors, Belby lui a répondu, est-ce que vous connaissez le Mont-Saint-Michel? Alors, Prouveau lui a dit, mais écoutez, je ne suis pas du tout sûr que vous ayez bien compris ce que je venais vous dire. Je venais vous informer que je vais faire un journal du soir. Et Belby, est-ce que vous connaissez le Mont-Saint-Michel? Je ne vois pas ce qu'il y a à voir entre le Mont. Et alors, il dit, voilà, le Mont-Saint-Michel, monsieur, c'est une construction sur un éperon rocheux qui affleure les sables, et c'est un phénomène géologique unique au monde. Il ne peut pas y avoir deux Mont-Saint-Michel, il ne peut pas y avoir deux journaux du soir à Paris, l'intran c'est le Mont-Saint-Michel. Et puis, 6 mois après, le Mont-Saint-Michel était... Prouveau rachetait le Mont-Saint-Michel et puis, petit à petit, l'a laissé mourir.
Alors, l'intransigeant a été en effet balayé par Paris Soir. Ça ne s'est pas passé exactement comme le dit Raymond Castan, parce que Belby avait vendu à Louis Dreyfus et c'est Louis Dreyfus qui a vendu à Prouveau. Mais enfin, si les journalistes doivent dire des choses exactes...
Hein. Louis Dreyfus, encore une... Je vous trouve ironique, là, aujourd'hui. Louis Dreyfus était encore un grand capitaliste. Il faut ajouter que Prouveau a eu le génie de recruter de très grands journalistes et grands reporters, qu'il envoyait un peu partout, les payait beaucoup, et puis d'autre part qu'il faisait des éditions successives l'après-midi. C'était avant l'essor des flashs de nos chères radios.
Il paraît que les journalistes, quand ils sont mieux payés, ils étaient assez bien payés à Paris Soir, sont plus libres.
Pourquoi pas?
Je vous trouve ironique, là, Jean-Noël Jeannet.
Non, non, enfin, c'est, en tout cas, je ne sais pas. Enfin, ce serait, vous me réinviterez sur cette question grave.
Non, je voulais vous proposer une péroraison à partir d'un extrait d'une pièce que vous avez écrite, qui a été créée en Belgique il n'y a pas si longtemps, qui met en scène Mandel, l'ancien adjoint de Clémenceau, le dernier ministre de l'Intérieur de la Troisième République, et Léon Blum, le président du Conseil du Front Populaire. Ils sont à Buchenwald en 1944, emprisonnés par les Allemands, et se remémorant les responsabilités des uns et des autres avant la Deuxième Guerre mondiale, ils se disent ceci.
Il y a toujours quelqu'un à persuader.
Tout de même, la dépravation morale de la presse depuis le siècle dernier, ce n'est pas seulement une addition de défaillances individuelles.
Les fripouilleries, les chantages, les plumes vendues aux plus offrants, vous les avez rencontrées comme moi, forcément, tout au long du chemin.
Oui, mais j'ai admiré aussi dans les journaux militants une foule de talents et de dévouements désintéressés.
Rarement dans la presse à gros tirage, celle qui pesait à la fois sur les élites et sur les foules.
Jaurès ne disait pas autre chose. C'est dans la structure capitaliste des journaux qu'il faut chercher la cause d'une pourriture qui a joué un rôle ravageur dans la dégradation et l'effondrement de la République.
Vous pourriez dresser comme moi en quelques instants une liste de gens de presse qui se sont rués dans l'ignominie. Le milieu, mais non. Une par une, des voleries individuelles. Et si vous me citez les courageux, et il y en a, vous confirmez du même coup que la liberté de chacun reste intacte.
On en revient au débat qu'avaient autour de 1900 Jaurès et Clémenceau au moment de « Un ennemi du peuple », Bruno Raffaelli et Jean-Gabriel Norman dans « L'un de nous deux », votre pièce Jean-Noël Jeannet.
D'ailleurs, Blum parle pour Jaurès dans ma pièce et Mandel parle pour Clémenceau. Donc on retrouve au fond assez largement l'opposition entre les uns et les autres. Vous savez que dans l'échelle humaine, Léon Blum, comme Marc Bloch dans L'étrange défaite, dit que l'effondrement moral de la presse, parmi un grand nombre de talents de plume, a été un élément décisif, c'est ce que j'essaye de marquer dans ce dialogue imaginaire, un élément décisif pour l'échec de la France, de la démocratie et de la France en 1940, pour l'effondrement national que le débâcle a signifié.
C'est-à-dire que la presse efface le débat public.
La presse est
alors
corrompue,
qu'elle devrait le servir.
La presse est corrompue, la presse, par conséquent, n'est pas vouée à s'efforcer de chercher une vérité. Autrement, il ajoute aussi qu'il y a des nouveaux journaux, c'est-à-dire les hebdomadaires, qui se portent vers des extravagances et des extrêmes qui ont sapé largement la vie démocratique. Je pense par exemple à Je suis partout qui apparaît à ce moment-là.
Avec tout ça, on n'a pas parlé d'aujourd'hui, à moins qu'on ait parlé d'aujourd'hui tout le temps, Jean-Noël Jeannet.
Écoutez, dans mon émission de culture que vous avez bien voulu évoquer, je le fais constamment. Si
ça
vous
s'appelle Concordance des temps.
Je suis tout prêt à le faire encore, mais je crains que l'heure soit arrivée.
Et l'heure de la publicité dans un instant, mais il faut d'abord que je salue Mathieu Vidard, que je donne le générique de l'émission, Elinka Negulesco, Alexandre Chenet et à la réalisation Stéphane Ronxin.